Mardi aujourd'hui, nous sommes le 28 mai, il est tout pile 8h.
France Bleu Paris.
Le journal Mélodie Pépin. Et à la une ce matin, le périphérique parisien, ce rapport choc remis à la mairie de Paris aujourd'hui.
Un rapport qui veut limiter le périph à 50 km/h, mais aussi réduire le nombre de voies, en réserver une au transport propre. Une révolution pour le million d'automobilistes qui empruntent le périph chaque jour. La pollution due aux voitures qui a poussé une mère et sa fille à déménager de Saint-Ouen pour Orléans. Elles attaquent aujourd'hui l'État en justice pour carence fautive. On y revient. Et puis, qui peut gagner Roland Garros? Gaël Monfils, le Parisien y croit. Vous l'entendrez dans le prochain quart d'heure.
On va faire la route ensemble avec Marc qui nous appelle. Il nous signale un accident sur la départementale 113 entre le rond-point des pompiers de Poissy et en direction de la 14. C'est visiblement un semi-remorque qui s'est couché. Prudence, si vous êtes dans la route, on le prend dans un instant en direct. Vos appels 01 42 30 10 10. La météo du gris pour aujourd'hui.
France Bleu Paris Matin.
C'est donc la question ce matin, quel est l'avenir du périphérique parisien?
Un avenir avec moins de voitures, qui roulent moins vite, à 50 km/h. Voilà si on résume le rapport qui est remis aujourd'hui à la mairie de Paris. Pendant 6 mois, des élus parisiens de tous bords ont planché sur le sujet, car l'objectif c'est de réduire la pollution et le bruit. Alors est-ce que baisser la vitesse est la solution? On est déjà passé de 80 à 70 km/h il y a 5 ans. Quel est le bilan aujourd'hui, Farida Noir?
1 million d'automobilistes empruntent tous les jours cet anneau routier de 35 km. Passer aux 70 km/h a-t-il permis de limiter les nuisances sonores du périphérique? Réponse avec Fanny Mietli, qui est la directrice de Bruit Parif.
L'abaissement a permis de diminuer légèrement le bruit la nuit, en moyenne 1,2 décibels. Et en journée, par contre, c'est beaucoup plus faible, de l'ordre de 0,5 décibel seulement.
Des diminutions peu perceptibles pour les 100 000 riverains du boulevard périphérique. Et qu'en est-il maintenant de la pollution aux particules fines? Charlotte Songeur est ingénieure à Air Paris.
Que ça soit le parc roulant, que ça soit les aménagements de voies, des axes qui ferment, qui réouvrent, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de paramètres différents pour que l'on arrive à quantifier réellement l'impact de cette baisse de vitesse.
Et l'accidentologie, si entre 2014 et 2018 on compte 3210 accidents, soit 694 de moins qu'entre 2009 et 2013, difficile de savoir s'il y a un lien de cause à effet, analyse Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association.
S'il y avait une étude déjà, s'il y avait des chiffres qui prouvaient clairement que de descendre de 10 km/h sur le périphérique qui avait amélioré la sécurité, on les aurait tous déjà. Or, moi j'en ai pas. Bon, encore une fois, un accident c'est multifactoriel, la vitesse n'est qu'un élément et pas forcément le plus important.
La circulation automobile sur le périphérique est-elle en constante baisse depuis 2002?
Farida Noir pour France Bleu Paris. Voilà, pas de conclusion très probante pour l'instant. Le rapport, lui, sera débattu le 11 juin au Conseil de Paris. Et vous, dites-nous ce matin ce que vous en pensez. Faut-il passer aux 50 km/h sur le périph?
Oui, faut-il par exemple supprimer des voies, en réserver à certains transports propres? Êtes-vous prêt à faire des efforts pour réduire la pollution? Appelez-nous dès maintenant, 01 42 30 10 10.
Et face à la pollution de l'air, que fait l'État? Une mère de famille qui a vécu 20 ans près du périph, justement, attaque l'État en justice pour carence fautive. Elle et sa fille ont multiplié les bronchites, les crises d'asthme, à cause notamment du pic de pollution en 2016.
Et pour elle, l'État n'a pas pris les mesures nécessaires.
Un avis partagé par Franck-Olivier Taurol, il est délégué général de Respire, l'association qui milite pour l'amélioration de l'air en France.
Ça fait longtemps qu'on alerte l'État, les préfets, etc., en leur disant « il y a un sujet sur la pollution de l'air, il faut agir maintenant, il faut arrêter de faire la promotion de la voiture ». Sauf que l'État ne nous écoute pas. Enfin, parfois, au mieux, on nous dit vous avez raison, on va faire quelque chose. Et au pire, on nous dit on n'existe même pas, en fait. Donc, il faut que l'État agisse maintenant. Et en fait, c'est grâce à ce type d'action qu'on arrivera à faire bouger l'État. Puisque quand il verra le nombre de personnes à indemniser, et évidemment, il peut y avoir une jurisprudence derrière. Et une fois qu'il y aura jurisprudence, ça peut faire changer les choses plus facilement. Peut-être qu'alors, ça le fera bouger.
Et les plaignantes demandent 160 000 euros de dommages et intérêts à l'État. Elles ont déménagé de Saint-Ouen depuis pour s'installer à Orléans.
Dans l'actualité également, ce nouveau plan de lutte contre le crack à Paris.
6 morts depuis le début de l'année. Les fumeurs de crack sont de plus en plus nombreux près de la porte de la chapelle. Du coup, la ville et la préfecture ont signé hier un plan sur 3 ans. La priorité, c'est de mieux accompagner les toxicomanes avec des maraudes 7 jours sur 7. Plus de places d'hébergement aussi et des espaces de repos. 3 millions d'euros ont été débloqués pour l'année prochaine. Et puis à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, la mairie part en chasse contre les vendeurs à la sauvette avec des patrouilles tous les jours de policiers mais aussi d'agents de sécurité privé.
8h05, un témoignage maintenant, témoignage exclusif sur France Bleu Paris, celle qui s'est fait voler un diamant de 45 millions d'euros dans un hôtel parisien.
Marie-Madeleine Diubaté, femme politique de Guinée, elle raconte que c'est en voulant faire certifier le joyau rare dans un luxueux hôtel du 8e arrondissement de Paris qu'elle aurait été victime d'une escroquerie.
Le rendez-vous se fera en 3 temps dans un hôtel. C'est au cours du 3e rendez-vous qu'une gémologue, soi-disant de Genève, d'une très grande maison et très classe, vient avec un garde du corps. Au début, ça se passe tout à fait bien, elle examine, tout le monde est content. Et c'est à ce moment-là, par un tour de passe-passe, qu'il change en fait l'écrin. L'écrin est substitué. Moi, je m'en rends pas compte tout de suite. Je m'en rendrai compte quelques heures après chez moi. J'ouvre mon sac, je prends l'écrin et je vois à la place de la pierre, il y a un vulgaire caillou marron. Pas du cristal, pas du tout, un caillou. Je suis effondré, je mets au moins une demi-heure à réaliser. Je les ai au téléphone, je dis vous avez volé, vous avez volé. Eux me narguent, ils me disent il faut prouver qu'on a volé la pierre. Mais avec tout le tapage médiatique qu'il y a eu autour de cette pierre, je pense pas qu'ils pourront revendre ce diamant aussi facilement que ça. Moi, je pourrais reconnaître entre 1000 ce diamant. C'est une pierre exceptionnelle par sa taille, la transparence de ce diamant, la lumière qu'il capte. Je crois qu'on en voit une tous les 50 ans, une tous les 70 ans.
Marie-Madeleine Diubaté, elle promet que ce diamant de 43 carats n'a pas d'origine douteuse. Ce sont des Guinéens qui le lui avaient remis pour financer des projets de développement et sa campagne électorale.
Un diamant donc de 45 millions d'euros. L'héritage de Johnny Hallyday avec une audience déterminante aujourd'hui au tribunal de Nanterre.
Oui, c'est là qu'on saura si la justice française est compétente pour trancher le litige qui oppose ses enfants à sa femme. Laetitia, tout pourrait basculer si le droit français s'applique.
Et puis Roland Garros, ça continue. On attend le Parisien Gaël Monfils sur les terrains.
Il sera opposé au Japon. On est Taro Daniel aujourd'hui, 107e mondial. Et comme toujours, Gaël Monfils a décidé de mettre la barre très haut, Fabrice Abgral.
Avec lui, pas de détour ni de faux fuyant. Gaël Monfils dit ce qu'il pense et quand il affirme qu'il veut gagner Roland-Garros, il ne surprend personne et il est plutôt convaincant.
J'ai des grosses attentes que j'affiche avec joie. Ça me libère aussi de dire la vérité, quoi. De dire ouais, j'ai envie de gagner Roland-Garros, j'ai envie de gagner un grand chelem, j'ai envie de gagner. Mais pourquoi j'ai pas le droit de rêver, j'ai pas le droit d'avoir envie de gagner Roland-Garros, j'ai pas le droit de le dire. Non, bien sûr que j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de le rêver et j'ai le droit d'y penser. Et ça me fait pas de moi une mauvaise personne ou quelqu'un qui se prend pour quelqu'un d'autre. C'est juste simplement un sportif, je pense, qui a envie d'y croire et qui essaie de tout faire cette année pour pouvoir y arriver. Et si c'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine.
Gaël Monfils n'est pas prétentieux, juste ambitieux, mais finalement il peut l'être. Car il a l'état d'esprit de ceux qui ont de l'appétit.
Et j'aborde ça d'une façon bien plus détendue. Je suis là pour le plaisir, quoi, vraiment pour me faire plaisir. J'ai pas grand-chose à prouver, entre guillemets. Et la seule chose que j'ai à prouver, c'est à me prouver que je peux, quoi, en fait.
Gaël Monfils s'accorde le droit de rêver, même si le Parisien n'a plus atteint les demi-finales à Roland-Garros depuis 2008. Mais le garçon est tellement imprévisible que finalement tout est possible.
Fabrice Abgral, Gaël Monfils qui rêve donc de gagner Roland-Garros. On est nombreux à pouvoir le faire d'ailleurs. 9 autres Français à l'affiche aujourd'hui, dont 6 franciliens. Hier, c'est Joe Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gilles Simon, Benoît Paire, Corentin Moutet qui se sont qualifiés chez les hommes, ainsi que la jeune Diane Paris de Boulogne-Billancourt. Ah oui. Elle a 16 ans
ouais,
seulement.
Une petite boulonnaise, effectivement. Bravo
voilà,
à elle.
Assez incroyable.